et préjudice moral subit le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys are a comedy of errors. You bellow with your fellows, get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarchy, I ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know what's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est l'heure du Canu Info de ce mercredi 3 septembre 2014. Il est 19h passé de 1 minute.
Ce soir, on va commencer traditionnellement depuis quelque temps notre Canu Info par de l'actu en bref. Et on parlera de la menace de grève chez les boulangers bavarois.
Ensuite, on va parler d'une offensive en Somalie.
Ensuite, on va parler de la Russie qui risque d'être privée de navires par la France.
Ensuite, on va parler de la guerre en Ukraine.
Ensuite, on va parler de Olfi, une organisation féministe menacée en Irak.
Les cages de la place du Pont ont été démontées.
Ensuite, on va parler de la fameuse histoire des cartables roses et des cartables bleus.
Ensuite, on parlera de Calais.
Ensuite, on parlera du grand stade avec un agriculteur qui a fini en garde à vue.
Et enfin, on finira par la grève féministe en Catalogne.
Alors, les boulangers bavarois menacent de faire grève pour la fête de la bière. Les syndicats sont en pleine négociation salariale pour trouver un nouvel accord avec le patronat pour une hausse des salaires de 6,5%, ce que les patrons refusent pour le moment, bien évidemment. Alors pourquoi les syndicats ont choisi de frapper pendant cette immense fête? Parce que le rapport entre la fête de la bière et la boulangerie, eh ben, c'est les bretzels et les petits pains ronds pour y mettre des saucisses. Et ça, les gens en consomment autant que de la bière pour éponger un peu d'alcool. Alors imaginez s'il y a une pénurie de bretzels pendant la fête de la bière à Munich, ça va être un carnage. Bon bah, on espère que ce moyen de pression, sans mauvais jeu de mots, les salariés auront gain de cause.
En Somalie ensuite, donc le gouvernement fantoche somalien actuellement mène actuellement une offensive contre les Chebabs. L'opération, baptisée Océan Indien, parce qu'ils ont toujours des jolis noms pour les opérations, a repris la localité Bulomara, qui était le bastion des Chebabs dans le sud du pays. Ils avaient déjà repris Mogadiscio il y a 2 ans. Ils sont aidés dans cette opération par les soldats de l'Union africaine et parallèlement, l'armée américaine mène une opération du même type et affirme, mais hier, avoir tué le chef militaire des Chebabs. Alors, le but de l'opération principale, c'est de présenter comme la reprise des ports du sud du pays. Apparemment, les Chebabs seraient spécialistes de la navigation et ça leur permettrait de voyager. Plus probablement, il s'agirait de pouvoir sécuriser les eaux somaliennes qui sont connues pour être la principale route maritime mondiale.
Ensuite, alors, compte tenu de l'aggravation de la situation en Ukraine et notamment avec l'arrivée de chars russes dans le pays, la France tente de faire pression sur Moscou en menaçant de ne pas leur livrer les 2 porte-hélicoptères qu'ils avaient commandés et qui sont quasiment prêts. Bon, alors vu la somme que ça doit représenter, on n'est quand même pas vraiment sûr que la France tienne, surtout qu'en ce moment elle est un peu taquée sur l'argent, tout ça. Et en plus, on se demande bien ce qu'Alizé y pensait quand ils ont négocié le contrat en 2011, que Poutine allait peut-être jouer à la bataille navale avec ses potes. Non, quand on fait du commerce d'armes, c'est bien que derrière, il y a des gens qui vont se prendre des balles dans la tête.
Et donc on continue avec la guerre en Ukraine. Maintenant c'est sûr, l'armée russe intervient en Crimée, on a vu des chars, on a aussi vu des comités de merde soldats qui, un peu partout en Russie, commencent à réclamer la vérité sur la mort de leurs enfants, qui se prennent des balles alors qu'a priori la Russie, leurs enfants sont censés être dans des bases quelque part tranquillement en Russie. Ce qui fait que le gouvernement de Russie a de plus en plus de mal à s'en tenir à version de « je vois pas de quoi vous voulez parler quand vous dites que c'est nos soldats là-bas ». Donc voilà. Alors, ce qui s'annonçait comme une probable guerre n'aura sûrement pas lieu, a priori pour des raisons économiques. En effet, la Russie vend principalement, donc une grande partie du PIB russe, est soumise à l'importation de gaz et de pétrole à l'Europe. Si celle-ci devait arrêter d'acheter du pétrole à la Russie et du gaz, la situation deviendrait catastrophique et on se retrouverait sûrement, enfin, pour eux comme pour nous, mais ça c'est pour des raisons différentes. En tout cas, les Russes, eux, se retrouveraient sûrement avec une récession à peu près du même niveau que ce qu'ils avaient connu en 90, à l'effondrement des blocs de l'Est. Nous, on se les pèlerait sûrement beaucoup et on aurait un peu du mal à pousser nos gros, enfin, faire avancer nos gros 4x4, mais ça c'est un autre problème. Le problème vient surtout du gaz pour les Russes, parce que le gaz, c'est difficile à acheminer. Ça passe principalement par de gros oléoducs qui traversent l'Ukraine, justement. D'ailleurs, qui sont un peu la cause du bordel en ce moment en Crimée. Et c'est difficile de réorienter ces oléoducs. Mais, pour la prochaine fois, mauvaise nouvelle, le président russe vient de signer un contrat de plusieurs millions de dollars pour la construction d'un gazoduc en direction de la Chine. Les Chinois étant moins connus que les Européens pour s'occuper des affaires qui ne les regardent pas.
Alors, je vais parler de l'Irak où l'organisation féministe OLFI est menacée. Donc, alors qu'à Mossoul, les milices de l'État islamique sèment la terreur, à Bagdad, on assiste au renforcement de milices réactionnaires chiites. Et soupçonnées d'avoir commis le massacre de 31 personnes dans le quartier de Zayouna, donc la milice au nom de Asaïb al-Alak menace désormais directement l'Organisation pour la liberté des femmes en Irak, donc OLFI. Donc, qu'est-ce que l'OLFI ? Je préfère un peu raconter l'histoire de cette organisation parce que souvent on parle d'ONG alors que là c'est autre chose. Donc c'est une organisation justement non gouvernementale consacrée à la défense des droits des femmes en Irak. Elle a été fondée en juin 2003 par Yanar Mohamed, Nasik Ahmad et Nadia Mahmoud. Elle défend la pleine égalité hommes-femmes et la laïcité, lutte contre l'islamisme et l'occupation américaine en Irak. À l'origine de l'OLFI se trouve l'Organisation indépendante des femmes, qui est active au Kurdistan autonome irakien de 92 à 2003, malgré la répression gouvernementale et islamiste et la coalition de défense des droits des femmes irakiennes, qui avait été, elle, fondée en 98 par des Irakiennes en exil aux États-Unis. Donc l'OLFI concentre son action sur la lutte contre la charia, contre les enlèvements et assassinats de femmes et contre les crimes d'honneur. Forte de plusieurs milliers de membres, elle dispose d'un réseau de soutien à l'extérieur, notamment aux États-Unis, et ses militantes et ses dirigeantes ont plusieurs fois fait l'objet de menaces de mort de la part d'organisations islamistes. Donc concrètement, là en ce moment, les militantes assurent une protection dans des foyers pour celles qui fuient les violences machistes et les crimes d'honneur. Donc selon une des militantes de l'OLFI à Bagdad, l'organisation a permis d'aider 200 jeunes femmes depuis sa création. Et l'OLFI apporte aussi du soutien et du refuge à de jeunes hommes homosexuels. Et tout cela est inacceptable forcément pour les milices religieuses réactionnaires. Et donc, dimanche 20 juillet, la police a appelé l'OLFI, indiquant qu'ils avaient appris que l'organisation protégeait des jeunes filles en fuite et des gays. Puis, surtout, que la police avait reçu des menaces de la part de la milice Asaïb al-Alak à l'encontre de l'OLFI. Et donc, je cite les policiers, on ne peut pas arrêter cette milice. Ils savent que vous protégez des jeunes filles et des gays. Et si vous ne quittez pas Bagdad, ils vous tueront. Donc, les flics, ils se dédouanent en les appelant, quoi. Et dans les jours suivants, beaucoup d'autres menaces qui ont été directes cette fois ont été proférées à l'encontre des militantes. Et récemment, l'OLFI a ouvert un refuge à Kerbala pour des veuves et leurs enfants fuyant la zone contrôlée par l'État islamique. Et du coup, ce que les camarades féministes de l'OLFI ont déclaré, c'est qu'elles vont continuer, malgré les menaces, leur lutte pour la liberté et l'égalité en Irak. Et donc, elles ont plus que jamais besoin de toute notre solidarité.
Fin juillet, sur la place du pont dans le quartier de la Guillotière, au niveau de l'arrêt tram, avait poussé des grilles avec des plots en béton. Alors bon, officiellement, c'était pour faire de pseudo-mesures pour un futur chantier dont personne n'avait entendu parler. Ce chantier était intitulé, je cite, « Espace d'études en vue d'aménagement futur lié à l'établissement ». Ah, l'embellissement, pardon. C'est pas mal, hein. Un type qui a été payé pour faire cette phrase.
Comme ça.
Ouais.
Faut dire, on pouvait surtout plus du tout circuler, quoi.
Ouais, c'est ça. Bon, en réalité, tout le monde avait quand même bien conscience du but de ce truc-là. C'était juste pour empêcher les Roms de s'installer à leur place habituelle pour faire leur petit marché. Sauf que, bien sûr, eh ben, ça n'a pas fonctionné. Même les commerçants s'en sont plaints, eux qui sont quand même majoritairement hostiles aux Roms. Et surtout, les gens se sont servis de ces caches comme une poubelle à ciel ouvert. C'était les gens, en gros, soit les Roms, soit les gens qui faisaient le marché, tout ça, la jetaient à peu près tout le merdier, tout pourri derrière. Et du coup, la ville a même été obligée à un moment de créer une porte, alors qu'à la base, il n'y avait pas de porte, mais elle a été obligée de foutre une porte dans ce truc pour aller ramasser les ordures dedans, quoi. Voilà. Bref, c'est un échec cuisant pour la mairie, mais mardi soir, la municipalité a décidé de retirer ses grilles. Mais la nouvelle maire d'arrondissement, Madame Picot, je sais plus son prénom, bref, on s'en fout, n'a pas dit son dernier mot, et il va falloir rester vigilant. Elle a déclaré être à la recherche de nouvelles installations urbaines pour que les Roms dégagent. Bon, ça, c'est pas... Elle a pas dit ça aussi clairement. Comment ?
Elle l'a dit comme ça ?
Non, elle l'a pas dit comme ça. Ouais, c'est ça, c'était comme ça, une soirée cocktail un peu trop arrosée. Bref, elle se dit prête à étudier la proposition de McDonald's qui demande qu'on lui laisse installer une terrasse gratos pour son fast-food. Oui, rien que ça. Qui McDonald's du coup justifie en disant que voilà, ça permettra à la ville de que les Roms ne soient plus sur la place. Bon, ça fait quand même plusieurs années que des tentatives pour virer les indésirables pardon, sont mises en place, avec l'installation de gros bacs à fleurs, ou la suppression de marches pour que les gens arrêtent de s'asseoir, ou alors l'arrêt de tram qui s'est vu retirer son grand abri pour que les gens soient abrités de la pluie quand il pleut ou contre le soleil. Mais ça, du coup, c'était pas pour les gens en règle générale, c'était plutôt pour éviter que les SDF s'installent, enfin se trouvent cet endroit pour s'abriter. Bon ben voilà, hier c'était les maghrébins, qu'ils ont tenté en vain de foutre hors de la place. Aujourd'hui c'est les Roms. On espère quand même que toutes ces tentatives vont rester un échec.
Alors, offensive des partisans de la théorie du genre.
ils refont surface,
ouais, c'est la rentrée, tout ça.
Tu voulais dire des partisans ou des opposants ?
Des partisans, bah, tu vas voir. Alors, pendant que les réals de tout poil poussent des cris d'horreur face à la nomination de Najah Vallaud-Belkacem, pour avoir écorché son nom, qu'ils accusent de promouvoir l'ABCD de l'égalité, pardon. Alors, on vous a déjà parlé de Najah Vallaud-Belkacem ici assez souvent, parce que lorsqu'elle était élue à la ville de Lyon, elle était connue pour ses attaques contre les droits des travailleuses du sexe. Alors, eux, c'est pas du tout pour ça. S'ils savaient ça, peut-être que même ils seraient potes avec elle. Enfin bon, on sait pas trop. En tout cas, donc, d'autres partisans de la théorie du genre lancent l'offensive. Le maire UMP de Puteaux, dans la banlieue parisienne, organise tous les ans une distribution de matériel scolaire. Distribution qui est régulièrement critiquée par les opposants, enfin par l'opposition, comme on dit au conseil municipal, pour son aspect clientéliste. Cette année, il a décidé d'aller plus loin et montrer sa croyance farouche en la théorie du genre. Pour ce faire, des cartables roses ont été distribuées aux filles et des cartables bleus aux garçons. En outre, les demoiselles se sont vues gratifier d'un ouvrage pour leur apprendre à créer des bijoux, tandis que messieurs pourront se plonger avec délectation dans un manuel sur l'art de monter un robot. Pour ceux qui avaient peur d'être perdus par la promotion de l'égalité homme-femme à l'école, il sera désormais facile de reconnaître de loin si les petits putois sont des bonhommes ou des bonnes femmes. Merci monsieur le maire.
Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé cet été en Calaisie ? Donc, pour commencer, pour là, ce dimanche, c'est le collectif d'extrême droite Sauve au Calais qui organise une manifestation, donc ce dimanche 7 septembre, et annonce la participation de plusieurs personnalités de l'extrême droite radicale. Et donc, les violences aussi à l'encontre de personnes impliquées dans le soutien aux exilés se sont multipliées cet été, ainsi que les agressions commises sur les exilés et sur les migrants. Donc, il y a une contre-manif qui est prévue et il y a aussi un tournoi de foot contre le racisme et en soutien aux exilés, dimanche donc de 14h à 18h, terrain de la Citadelle à Calais. Donc, en gros, cet été, les agressions racistes envers les migrants et des agressions envers des personnes militantes solidaires ont augmenté. À Calais, ce n'est plus uniquement la parole xénophobe et raciste qui s'est banalisée dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Le règlement de compte et l'agression dans les espaces publics tendent désormais à se multiplier et cette augmentation d'actes de violence n'est pas le fruit d'une génération spontanée, elle est le résultat d'un climat tant au niveau local que national entretenu par certains responsables politiques. Donc tout à l'heure nous allons parler de Cazeneuve et rappelons-nous l'appel à la délation lancé par la sénatrice et maire Natacha Bouchard, relatif au squat ouvert par les militants de nos bordeurs et les exilés.
Une petite brève qui s'est passée dans la nuit du jeudi 28 août. Trois flics de la PAF ont arrêté une quinzaine de migrants qui tentaient de monter dans un camion pour passer la frontière. Moi, ils se sont tous fait arrêter, sauf l'un d'entre eux qui a réussi à se faire la belle et qui avait un peu la haine et a donc décidé de se venger. Il est donc revenu avec cinq camarades à lui et un fusil et a menacé les flics de leur tirer dessus. Bon, aucun coup n'est parti, mais les flics ont bien flippé et les migrants ont réussi à se barrer de nouveau sans se faire choper.
Bravo.
Bravo.
C'est la rentrée.
C'est la rentrée, nous sommes pas. Bref. Alors, dans le cas des nouvelles directives programmées de Cazeneuve, on doit s'attendre à une augmentation impressionnante d'expulsions par vol commercialisé ou par charter dans les mois qui vont suivre. Et par exemple, les décisions d'expulsion vers l'Érythrée et le Soudan se multiplient, même s'il semble qu'elles ne soient pas encore mises à exécution jusqu'à présent. Et là, en ce moment, il y a trois Soudanais qui ont été arrêtés à Gare du Nord et en route pour l'Angleterre via Calais, qui sont enfermés au centre de rétention de Vincennes et vont être expulsés vers Khartoum ce samedi 6 septembre 2014. Si l'ambassade du Soudan leur délivre le laissez-passer indispensable pour pouvoir les expulser. Donc il y a une mobilisation qui est en train de se faire au niveau parisien. Voilà. Et donc moi je vais revenir un peu sur toutes les déclarations de Cazeneuve et compagnie et Natacha Bouchard, etc. ces derniers jours. Donc les beaux effets d'annonce sur le terrain se sont faits dès le 22 août 2014. Où la mairesse Natacha Bouchard a fait une annonce remarquée puisqu'elle a demandé au ministre de l'Intérieur, donc Cazeneuve, la création par l'État d'un centre d'accueil pour les exilés d'environ 400 places loin des habitations. C'est vraiment à noter, car depuis 2002, cette option était inenvisageable. Quand elle parle de ça, tout le monde se souvient de Sangat, où c'était un centre au départ d'hébergement de 200 personnes. Et donc, ça a impressionné un peu cet effet d'annonce-là, toutes les associations calaisiennes dans ce truc de « tiens, il y a de nouveau une possibilité là-dedans ». Mais je pense qu'elle savait ce qu'elle faisait en proposant ça, puisque le 28 août, la réponse de Cazeneuve a été « Je ne veux pas créer un centre d'accueil qui soit un nouveau point de convergence des migrants ». Et du coup, ça, il l'a déclaré en marge d'un déplacement à Rome, première étape d'une tournée européenne sur le thème de l'immigration illégale. Je ne peux pas à la fois démanteler les filières d'immigration irrégulière et organiser les conditions pour que les trafics continuent. Donc voilà, Cazeneuve en ce moment est vraiment sur le truc de démantèlement des filières. Ce qu'il faut dire par rapport à cette question des filières, c'est comme la question des sur la prostitution et... C'est qu'à plein de moments, il y a la réalité, c'est des parcours migratoires et pas tant des filières méga organisées pour faire passer des migrants, et que lui, il joue là en permanence dans toutes ses déclarations depuis fin août là-dessus. Et donc hier matin à Paris, donc le ministre a reçu le député du Calaisis Yann Capet, venu plaider pour un accueil de jour des exilés et un hébergement des personnes vulnérables. Donc lui, il est PS, il lui a parlé de manière où Cazeneuve a un peu apprécié. Et il y a aussi la sénatrice Natacha Bouchard venue plaider donc pour un centre d'accueil des exilés. Et le préfet du Pas-de-Calais a lui réuni précipitamment les associations samedi dernier. Donc, pour calmer le jeu par rapport aux possibilités d'expulsion de campements et de squats, et évoquer l'accueil de jour des exilés. Et une délégation du Haut Commissariat aux réfugiés était attendue aujourd'hui à Calais. Donc, en fait, ça se bouge pas mal. Et en tout cas, ils multiplient un peu leurs déclarations. Ça donne l'impression qu'ils veulent faire un peu redescendre beaucoup la tension là, qui est assez forte à Calais en ce moment. Et on sait bien que toutes leurs déclarations, ça ne va pas changer de fait la situation qui est extrêmement grave sur le terrain. Et voilà. Et donc, la petite interaction donc, entre Natacha Bouchard et Cazeneuve, donc la première réponse de Cazeneuve, pas question de rouvrir un sangat. Mais le ministre de l'Intérieur et la sénatrice se sont bien entendu sur plusieurs points. Tout d'abord, la première chose, ils souhaitent avant tout et communément renforcer le dispositif Frontex aux frontières, et aussi beaucoup de chauvinisme, faire payer le prix de Calais aux Anglais. Donc, je cite Bernard Cazeneuve, « Je veux que les Anglais soient plus présents à Calais. » Et Natacha Bouchard de surenchérir, « Je veux que les Britanniques prennent en charge le préjudice qu'ils font subir à Calais. S'ils refusent, je suis prête à bloquer le port de Calais. Mmh. » C'est quand même étonnant encore, voilà, de ce genre de propos. Et donc, ils ont quand même évoqué la possibilité d'un centre qui serait uniquement d'accueil de jour et qui devrait être peut-être créé en périphérie de la ville. Voilà. Je vais faire un peu d'infos plus globales là, sur le nombre de décès des migrants en Méditerranée cet été, qui est un nombre historique. Donc, c'est 2000 morts au moins et environ 100 000 personnes recueillies par la marine italienne dans le cadre de l'opération Mare Nostrum. Et ça, c'est un chiffre supérieur à celui des révolutions du printemps arabe de 2011, qui était déjà le record. Et donc, Cazeneuve en a profité hier pour asseoir un plan décisif de lutte contre les réseaux migratoires. Donc, fin août, il a fait la tournée de plein de pays européens. Et là, il a son plan. Et donc, j'aurais qu'à vous le lire avec ses propres mots à lui, puisque j'ai trouvé une interview de lui dans La Voix du Nord. Donc, je cite, « Plus de 100 000 personnes ont migré vers l'Europe via la Méditerranée depuis le début de l'année. Une réponse européenne forte et coordonnée est indispensable. J'ai donc proposé à nos partenaires un plan en 3 points. » Ils aiment bien les plans en 3 points. D'abord, renforcer la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne qui permettent l'extinction progressive de Mare Nostrum en faisant monter en puissance une opération européenne de contrôle au plus près des côtes, baptisée Frontex Plus. Alors quand on voit ce que c'est Frontex, on se demande ce que ça va être Frontex Plus. Mais à part qui tire avec des kalachnikovs sur les migrants, je sais pas trop ce que ça peut être le Frontex Plus, quoi. Parce qu'il y a déjà des grilles partout.
On pourrait faire comme avec les requins, mettre une grande grille dans tout l'océan, et enfin dans la Méditerranée comme ça, et puis voilà, avec des miradors dans la Méditerranée comme ça qui flotteraient. Ce serait bien, non ?
Ouais. Alors bon, le deuxième point. Ensuite, faire respecter par tous les États membres les règles européennes d'enregistrement des migrants pour une meilleure répartition des demandeurs d'asile sur le territoire européen.
Ça, c'est par rapport à la loi Dublin 2, ouais, qui fait que quand un demandeur d'asile il met le pied dans un pays et il enregistre sa demande, parce que s'il le met un pied dans un pays et qu'il se fait pas remarquer, bon, il lui arrive rien. Mais du coup, quand un migrant fait sa première demande dans un pays, il doit y rester, c'est ce pays qui doit prendre en charge toute la procédure. Et après, s'il veut, je sais pas, par exemple, il est venu une première fois en Italie, il a déposé une demande, puis après, il a plus de potes en France, et il veut venir en France, la France lui dit non, non, tu dégages, tu retournes en Italie, c'est là que tu fais ta procédure.
En fait, il ne faut pas forcément avoir déposé une demande. Il faut juste que le pays dans lequel tu fais ta demande, si lui il sait que pareil, s'il peut savoir de façon un peu sûre que par ailleurs tu t'es arrêté pendant ton trajet, à ce moment-là, il peut te dire non, mais allez faire votre demande là où vous avez posé le premier pied. En gros, si tu descends d'un camion en France et que t'es descendu pisser en Allemagne, et que t'as envie de rester en France, tu le dis surtout pas à l'OFPRA que t'es descendu pisser du camion.
Ok.
Alors, enfin, améliorer la coopération entre les pays de provenance pour démanteler les filières de l'immigration irrégulière. Donc, ça, Cazeneuf, il kiffe les filières. Diminuer les départs et favoriser le développement. Donc, en une semaine, nous avons obtenu l'accord de l'Italie, de l'Espagne, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la Commission européenne. C'est un pas décisif, a-t-il déclaré. Et enfin, je souhaite que l'on aille vite et que Frontex Plus soit opérationnel dès novembre. J'ai obtenu de la Commission européenne que ce travail commence tout de suite. Donc voilà. Et toute la question de la migration, le ministre prône le réalisme et dénonce dans Libération d'hier, toujours, la gauche angélique. Je cite, on peut brandir de grands principes, mais la France ne peut accueillir tout le monde. C'est beau, cette mise en garde fait écho à celle d'un certain Michel Rocard en 89.
Les socialistes, ils ont passé beaucoup de temps ces derniers jours à dénoncer la gauche ci et la gauche ça.
Mais parce que, ouais, ils ont décidé. And I throw no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper, which do you class him? Speech eloquent, though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant. Call it urban, call it street, or rose by any other name's more just as sweet. Spit so hard, but I'm smart at the bar.
On revient sur Lyon, et plus précisément, même plus exactement, à Décines. Lundi matin, des bulldozers sont arrivés devant la ferme de l'agriculteur Philippe Laya. Et ont défoncé le portail et des techniciens ont commencé à prendre des mesures sur son champ. Alors Philippe Laya et sa propriété, du coup, c'est une personne qui a été expropriée, enfin qui est en cours d'expropriation plus exactement, par le Grand Lyon pour la construction de ce fameux grand stade pour l'équipe de foot de l'Olympique Lyonnais. Sauf que Philippe Layat avait fait plein de recours pour contrer son expropriation. Et le 14 mai dernier, 4 arrêtés préfectoraux de déclaration d'utilité publique autorisant l'expropriation avaient été annulés par la cour d'appel administrative. Depuis, le Grand Lyon a fait un recours devant la cour de cassation. C'est très technique. Hein. Moi, je comprends pas toutes ces histoires de recours et tout, mais c'est vraiment du travail d'avocat pur et dur. Donc bref, le Grand Lyon a fait un recours devant la cour de cassation et a refait les procédures d'utilité publique. Mais pour l'instant, la cour de cassation n'a pas encore tranché. Je ne sais même pas si elle s'est réunie, enfin s'il y a eu le procès ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Bref, là-dessus, le Grand Lyon passe donc en force de la toute procédure, de l'AVME même des services, de ses services, qui dit, je cite, à terme, il y aura régularisation, ce qui induit quand même que pour l'instant, il n'y a pas. Même si la DUP, qui est la déclaration d'utilité publique, est annulée, l'ordonnance d'expropriation existe toujours, oui, sauf qu'elle a été été contrecarré par le tribunal. Le terrain appartient au Grand Lyon. Nous n'avons pas pu en prendre facilement possession. Oui, bah ça, t'as envie de leur dire, bon, quand même, c'est, voilà, ça c'est le jeu, quoi. Mais aujourd'hui, on ne peut plus attendre. Bon, bref, vous avez compris. Bon, c'est pas tout à fait dans les règles, mais là, quand même, ça presse. On a des sociétés qui ont affilé plein de pognon, qui sont en train d'attendre. Bref, on va pas attendre que pour des petites histoires comme ça de procédure en cours de cassation. Non, mais quand même, on va pas se faire chier pour ça. Sauf que Philippe Laya avait quand même bien les boules et venait gueuler tous les jours depuis lundi contre cette destruction. Sauf que hier matin, un technicien bien trop zélé est allé porter plainte chez les flics pour injure, parce que bon, j'imagine que ce fameux Philippe a dû accueillir un peu tout le monde en s'énervant et en insultant, ce qui est quand même plutôt légitime quand on se fait virer de chez soi. Et voilà, et là t'as un espèce de connard qui va chez les flics pour porter plainte pour injure, ce qui a permis aux flics de foutre en garde à vue. Donc bon, alors ça, on sait pas trop si c'est genre le patron du type ou je sais pas qui a dit bon, ce serait bien qu'il y ait un dans vous qui aille au commissariat pour que cette espèce d'illuminé comme ça finisse chez les flics. Sachant que quand même, normalement, personne n'est amené en garde à vue pour une injure. Enfin, bon, sauf si c'est un flic ou le président de la République. Mais bon,
pour outrage et rébellion.
Ouais, c'est ça, mais bon, pour un technicien, sinon quand même, on imagine à peu près le nombre de patrons qui finiraient dans les cellules de garde à vue.
Alors, on va finir ce Camnu Info en... Je vais vous lire un appel... qui nous vient de Catalogne pour une grève féministe, et j'ai envie de le lire peut-être pas quasi en entier, mais parce qu'il parle de la situation aussi. De fait, il donne plein d'éléments clés sur la situation en ce moment en Espagne et tous les changements légaux et toutes les lois qu'ils sont en train de faire passer et toutes les manifs qu'ils ont réprimées. Voilà, donc ça s'appelle Huelga de Todas en castillan, Vaga de Totes en catalan, tout à la grève. Les femmes, nous en avons marre des politiques sociales, économiques et juridiques qui attaquent chaque fois un peu plus nos droits, notre dignité et notre liberté. Des lois rétrogrades, comme celle qui veut interdire l'avortement ou la reproduction assistée, ni le droit de décider librement si nous voulons être mères. Le contrôle sur le corps des femmes et notre capacité reproductrice a toujours été une stratégie centrale de la construction du pouvoir machiste et patriarcal. Nous exigeons le droit à l'avortement dans des conditions sûres, dignes, dans un système de santé public qui ne criminalise pas les femmes, ni nous abandonne à notre sort. 35 femmes ont été assassinées pendant les premiers mois de 2014 dans l'État espagnol, et plus d'une femme sur quatre a souffert des agressions graves. Mais les violences machistes continuent d'être invisibilisées et le travail de prévention et d'éducation à l'égalité depuis l'enfance reste absent des plans éducatifs. Des coupures budgétaires, criminelles, des services publics et du bien-être social, éducation, santé, services sociaux, etc., qui nous affectent plus que le reste de la population. Nous sommes la majorité des employés dans ces secteurs, et ainsi nous sommes celles qui nous retrouvons au chômage. Nous sommes encore celles qui prennent en charge les enfants, les personnes âgées et dépendantes, et donc celles qui amortissent la disparition de ces services. Nous nous retrouvons dans les secteurs les plus précaires et appauvris de la population, et donc celles qui ont le moins de possibilités d'accéder à ces services si ceux-ci ne sont plus publics. Vous avez compris la boucle. Une répression brutale qui nous arrête, nous met en prison, nous mutile pour le simple fait de manifester, de ne pas rester en silence, quand ni la peur, ni la répression policière, ni aucune tentative de criminalisation ne pourront arrêter nos rêves d'une vraie vie, dans laquelle le bien-être des personnes et le respect de l'environnement ne soient pas subordonnés au bénéfice de quelques-uns. L'exclusion sanitaire et les lois contre les étrangers qui nous condamnent au travail noir, au racisme et aux agressions xénophobes, à la vulnérabilité, aux rafles racistes, quand ce n'est pas à l'enfermement au centre de rétention. Les coupures budgétaires et le manque de perspectives professionnelles ont forcé le retour de personnes autochtones aux travaux les moins payés. Et ceci a poussé les femmes migrantes qui avaient qui avant réalisait ses travaux mal payés et sans garantie ni droit, à vivre dans la misère, condamné à la pauvreté et à encore davantage d'exclusion sociale, ce qui est un des nombreux visages de la violence envers les femmes. Des réformes du travail qui approfondissent les inégalités que nous affrontons déjà. Le gel du salaire minimum, la réforme de l'imposition, l'augmentation de la TVA, les réformes du Code du travail de 2010 et 2012 qui précarisent le travail rémunéré et augmentent les différences salariales. Juste pour dire, notre nouveau ministre de l'économie vient de faire des déclarations qui vont dans ce sens-là. Bref, fermez la parenthèse. Le gel des pensions de veuves et ou de retraite nous laisse dans une situation plus vulnérable. Nous finissons par intensifier le temps de travail domestique pour compenser les coupures budgétaires et privatisation des services sociaux. La dette et les réformes qui s'appliquent en son nom renforcent et approfondissent une structure professionnelle qui repose sur le double ou triple journée de travail des femmes et dans le maintien des rôles traditionnels du patriarcat. Les conditions économiques non rémunérées, le travail non payé des femmes constituent en soi une incommensurable dette. Grève générale. Ce qui nous intéresse, c'est une grève politique, créative, qui transcende la grève productive et qui incorpore de nouvelles actrices que celle-ci n'inclut pas. Une grève de consommation, une grève féministe, une grève de toutes et de tous. Mais quel type de grève ? Une grève productive, oui, mais surtout une grève qui sorte des standards masculins, qui serve à toutes les personnes, travailleuses ou non, et à tous les travaux productifs, reproductifs, domestiques, sexuels, formels ou souterrains. Quand ? Alors elle propose le 22 octobre. Avec le temps suffisant pour la penser, la préparer, la coordonner, la convoquer, la faire nôtre. Mais sans la repousser infiniment, sans laisser passer le moment actuel de saturation et notre nécessité de dire assez. Pour ça, pour penser ensemble à ce processus de construction de la grève de toutes, parle-en avec tes amis et tes voisines.
Juste, il parle aussi en Italie, dans le nord de l'Italie, de se joindre à cet appel.
Eh bien, il faudrait aussi dans le centre-est de la France. Et moi, je me dis que c'est aussi un peu la rentrée. On pourrait redire où est-ce qu'on peut nous écouter, où est-ce qu'on peut trouver des infos au niveau local, je sais pas. Comme il nous reste un peu de temps.
Bah pour les infos au niveau local, il y a nous. Et
et les autres équipes des Canu Info, des autres soirs de la semaine.
Ah oui, c'était inclus dans le nous, hein, quand même.
Donc les Canu Info, d'accord, et on peut les écouter sur Internet ou pas ?
Et oui, sur... Je connais même pas le site, radiocanu.free.fr.
Oui, en tapant Radio Canu dans Google et en allant sur les blogs de Radio Canu, il y a un des blogs qui s'appelle Canu Info.
Et donc vous pouvez écouter tous les blogs, tous les infos de chaque semaine.
Ça, on peut en écouter des tonnes, ça remonte à il y a au moins 2-3 ans. Et après, si on a envie, on peut aussi écouter chaque jour le Canu Info de la veille en allant directement sur rebellion.info, rebellyon.info, qui par ailleurs est effectivement un autre site sur lequel on peut trouver un paquet d'informations locales et extrêmement passionnantes.
Et aussi quand même, et ça c'est quand même très important de le dire, vous pouvez réécouter les Canu Info de la veille le matin. De 8 à 9, parce qu'un animateur de la radio, eh ben, très très patiemment et très minutieusement, enregistre tous les Canu Info sur cassette et vient les rediffuser comme ça, et vient tous les matins les mettre dans le lecteur cassette du studio, appuie sur play pour que vous puissiez réécouter les Canu Info. Et ça, c'est
bon. De 8 à 9, il peut arriver que ça soit un petit peu plus tard dans la matinée.
Ouais, c'est bon, de toute façon, normal.
Et voilà. Non, moi, j'ai une autre question pour vous. qu'est-ce qui s'est passé le 3 septembre dans la Deuxième Guerre mondiale ?
Ah ouais, parce que la place des terreaux, c'est l'enfer. Hein.
Bah c'est ça.
Moi, j'ai flippé, j'ai vu des drapeaux français au loin, je me suis dit merde, il y a encore la manif pour tous qui est en train de défiler et tout.
Parce que libération de Lyon.
Théoriquement, ouais. Il y a eu la libération de Lyon. Ouais.
Ah d'accord. Parce que, alors, moi, je suis arrivé, j'ai quand même envie de le dire, en arrivant avec mon petit vélo sur la presqu'île, il y avait un défilé avec déjà plein de jeeps militaires. Et du coup, des hommes en tenue de l'armée qui les conduisaient, et à côté, des femmes et des enfants. Vous voyez,
mais des hommes en général qui n'avaient plus trop l'âge de pouvoir tenir un fusil.
Non, ils avaient entre 60 et 80 ans, quoi, tous. Et après, des tambours, vous voyez, une fanfare, et ils marchaient en garde à vous. Dis-moi, vous voyez, en rythme militaire, et j'ai complètement flippé, je me suis dit, c'est l'occupation. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, non, c'est l'inverse.
Donc, le 3 septembre, Lyon a été libéré du nazisme, c'est ça ? Des nazis ?
Du gouvernement de Vichy plutôt, mais ouais.
Il n'y a plus de gouvernement de Vichy à ce moment-là.
Bah alors ils ont été plus ou moins libérés de personnes parce que les nazis étaient plutôt en train de courir. Alors
oui, mais justement, c'est parce que
C'est le moment où ils ont quitté la, où ils ont commencé à courir à travers Lyon.
Ils étaient fiers, quoi.
Eh bah ouais.
D'accord.
Non, mais c'est vrai, moi aussi j'ai flippé quand je les ai vus. Je me suis dit, oh putain. Aussi au début je me suis dit quand même un truc à raconter aux infos et tout, mais voilà. Et si, quand même, on rappelle très vite fait quand même l'appel aux dons, comme ça vous pouvez donner de l'argent à Radio Canu pour...
continuer à écouter nos super infos.
C'est ça, et pour qu'on s'achète un local flambant neuf, là, à la Confluence. Non, ça c'est une blague, mais...
Non, mais alors, en gros, pour être un petit peu plus... commencer par dire les choses réelles, Radio Canu n'a pas exactement de graves problèmes d'argent dans l'immédiat, mais disons que d'un côté... Tous les frais augmentent régulièrement, alors que par contre la thune qu'on touche de l'État en réalité, c'est-à-dire du fonds de soutien à l'expression radiophonique, reste la même année après année, c'est-à-dire très exactement la même. Et donc petit à petit, ces frais risquent de devenir extrêmement problématiques. Pour l'instant, ils sont juste un tout petit peu problématiques. Disons qu'il faut qu'on se serre un peu la ceinture, mais il y a un jour où il faudra tellement qu'on se la serre qu'on sera coupé en deux. Et surtout, l'année dernière, on a subi une augmentation de loyer assez brusque, et qui fait que là, enfin voilà, qui accentue le côté problématique. Pour ne plus avoir à compter avec ce genre d'augmentation de loyer, on a une sorte de bail où le proprio il peut faire un peu n'importe quoi. Et bah pour plus avoir à compter avec ça, le but est de s'acheter un local. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de votre pognon. Donc comment faire pour donner de l'argent ? Eh bien, d'une part, vous pouvez écouter les bandes continues de Radio Canu, c'est Radio Canu quand il n'y a pas d'émission, qui vous le répète heure après heure. Et d'autre part, vous pouvez tout simplement envoyer des chèques qu'il faut rédiger à l'ordre de Radio Canu à l'adresse suivante, Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon CEDEX 01. Je répète pour les gens qui viennent de choper leur stylo, Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon CEDEX 01. Voilà.
Puis vous pouvez aussi écrire des petits mots au Canu Info du mercredi pour nous faire des petits commentaires à cette même boîte postale.
Ah bah ouais, grave.
Mais que des gentils.
Ouais.
Non.
Ouais. Si. Non, c'est vrai, après les méchants récoltent quand même. En tout cas, c'était cool de reprendre la radio.
Ouais, bon, on espère que c'était cool pour vous aussi.
Et ben bonne soirée alors.
Merci de nous avoir écoutés.
Et bonne soirée. Bien sûr, c'est la rentrée, mais quand même, on termine un bon quart d'heure en avance. Et donc, on vous laisse avec un peu de musique. En attendant, Idées Noires, pour eux aussi, c'est la rentrée. Et qui prennent l'antenne dans 17 minutes, si ils sont pile poil à l'heure. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. And bring back again. Come on. That's right. Now I want all the girls in the court, sing it with me. On a count of three. Well, baby.